Stop, c'est parti.
Comment ça marche le journalisme?
Sur Twitter, Instagram.
On est dans un moment de grande confusion.
You are fake news.
La bonne réponse.
Et comment ça marche le journalisme? Il est 9h40 sur France Inter, c'est l'instant M qui redémarre.
Quand on regarde une série, on sait que ça va se terminer.
Vous me spoiler?
Le spoil.
On ne se ferme pas les yeux aussi facilement qu'on se bouche les oreilles.
Les journalistes ont-ils des comptes à rendre? Montrer des images de politiciens véreux? Est-ce faire le jeu du populisme? Les réseaux sociaux sont-ils un contre-pouvoir à la toute-puissante télévision publique elle-même, contre-pouvoir face aux puissants? Faut-il absolument qu'un sujet soit concernant pour être intéressant? À force de prendre les téléspectateurs par la main, les prend-on pour des débiles? Y a-t-il toujours de l'argent pour fabriquer des magazines à France Télévisions? Voilà, allez savoir pourquoi j'ai abattu toutes mes cartes.
L'instant M. Sonia de Villers. Sur France Inter.
Tout ça pour vous parler de plastique. Bonjour Élise Lucet.
Bonjour. J'en avais des cartes. Hein.
C'est ça.
Ouh, quel jeu.
Exactement, on est jeudi. Et c'est la nouvelle formule du magazine envoyé spécial sur France 2. Est-ce qu'on est jeudi aujourd'hui?
Oui, on est jeudi.
C'est ça. Sur France 2, j'ai fini par en douter. Et c'est ce soir. À mes côtés, Cyril Petit, rédacteur en chef central au journal du dimanche.
Bonjour Sonia.
Et chroniqueur dans l'instant M les autres jours, évidemment, parce que le journal du dimanche, c'est lorsque l'actualité du marché de la presse le réclame. Je suis très contente de vous voir, Cyril, de retour dans l'émission. D'autant plus que ça va très très mal pour la presse quotidienne au Québec et que ici dans l'instant M, on avait envie de vous en dire un mot. Qu'est-ce qui se passe?
Oui, c'est ça Sonia. 6 des 10 quotidiens peuvent disparaître dans les prochaines semaines. Alors je vous les cite, il s'agit de la Tribune de Sherbrooke, du Nouvelliste de Trois-Rivières, du Droit d'Ottawa-Gatineau, de la Voix de l'Est de Granby, du quotidien Le Progrès de Saguenay, Lac-Saint-Jean et du Soleil de Québec. Alors ces journaux, pour la plupart, ils sont centenaires. Mm-hmm. S'ils disparaissent, sans eux, une grande partie de la région se retrouverait dans un désert d'infos de proximité et même la capitale, Ottawa, officiellement bilingue, n'aurait plus de quotidien en français.
Alors, 6 des 10 quotidiens québécois, c'est énorme, qui peuvent disparaître. Pourquoi?
Alors, 6 des 10 quotidiens payants, ils sont menacés? Parce qu'ils appartiennent au groupe Capital Média, qui est au bord de la faillite. Ouais. En 10 ans, les revenus de ces journaux ont baissé de moitié et le groupe doit près de 18 millions d'euros à ses créanciers. Alors, le 19 août, le gouvernement de Québec a réagi et l'a placé sous assistance respiratoire avec un prêt d'urgence de 3,4 millions. Et ça préoccupe ce sujet puisque même le premier ministre canadien, Justin Trudeau, s'est dit très préoccupé.
Alors, qui pourrait racheter ces 6 titres au bord de la faillite? On parle d'un candidat principal qui est le groupe Québécois.
Oui, alors ce candidat, le principal, le problème, c'est qu'il possède déjà 2 quotidiens payants, dont le plus important, le Journal de Montréal, plus un gratuit, plus la principale chaîne de télé privée au Québec. Bonjour le pluralisme de l'info,
sans
si
blague.
Il devait racheter ces 6 quotidiens. Alors lui, le patron de Québécois, il répond qu'il vaut mieux une concentration de la presse que pas de presse du tout. Si ce rachat se faisait en tout cas, on aurait au Québec 2 géants de l'information, le privé Québécois et l'audiovisuel public Radio-Canada.
C'est ça, tout seul, en face à face. Malheureusement, Cyril, cette crise, elle touche toute la presse au Québec.
Elle touche toute la presse, elle touche tous les médias. Ouais. Les gérants du numérique, ils aspirent toute la pub comme partout, mais là-bas peut-être encore plus, notamment parce qu'au Québec, il y a une croyance historique en la gratuité sur le web. Il y a peu d'abonnements, peu d'abonnements numériques. Les articles sur Internet sont la plupart du temps lisibles sans payer. Alors résultat, 82 médias ont fermé entre 2011 et 2018, dont 57 hebdomadaires, c'est un tiers de ce nombre d'hebdomadaires. Bref, c'est la panique.
Alors, c'est l'hécatombe.
C'est l'hécatombe.
Ces chiffres,
c'est l'hécatombe. Effrayant. Et ça pourrait malheureusement être pire. Alors ce sujet, il est hautement politique, surtout à l'approche des élections fédérales. La semaine dernière, il y a une grande commission parlementaire qui a entendu tous les acteurs des médias. Alors, parmi les pistes envisagées, on parle de la création d'une taxe pour les géants du numérique. La taxe GAFA à la française est observée. On parle de l'élimination de la contribution des journaux pour le recyclage qui a augmenté de 340% en 10 ans.
Pour le recyclage du papier,
pour
c'est
le recyclage
ça
du papier. On parle du retour de la publication des avis publics dans les journaux. Ça a disparu, ça a fait beaucoup de mal. Ou encore de la création d'un fonds d'aide publique à la presse comme cela existe chez nous en France. Donc vous voyez, il y a quelques initiatives chez nous qui sont observées.
Et nos confrères québécois qui sont regroupés au sein de la Fédération des journalistes ont lancé une grande campagne « Je soutiens mon journal » à coup de tracts, de tribunes.
De la mobilisation, des rencontres. Leur objectif, il s'agit de convaincre qu'il n'y a pas de démocratie sans presse locale. Et comme dirait leur président, les gens pensent qu'ils n'ont pas besoin de leurs journaux parce qu'ils ont les nouvelles sur Internet. C'est comme dire « Je n'ai pas besoin d'agriculture parce que j'ai un supermarché ».
Ça ne marche pas. Merci beaucoup Cyril Petit. À réécouter sur franceinter.fr.
L'instant M. C'est aussi en vidéo sur franceinter.fr.
Mon invité, Élise Lucet, pour la nouvelle formule d'envoyé spécial qui va démarrer ce soir sur France 2. Avant d'y venir et de parler de vos sujets, de votre menu du jeudi soir, Élise Lucet, je voudrais vous faire réagir aux propos de François Drugy, député, ancien ministre de la Transition écologique, sur le plateau de C'est à vous, il y a deux jours.
Je pense avoir été un peu d'ailleurs la victime expiatoire des Gilets jaunes. Et la différence quand même, c'est que moi j'ai été élu. J'ai pas été embauché pour faire des articles et payer sans jamais rendre de compte. Jamais ils rendront des comptes.
Les journalistes doivent rendre.
Est-ce que vous connaissez une profession comme ça, une petite entreprise et dont l'impunité la plus totale?
On parle ici de nos confrères de Mediapart. Mmh. Suite à leur révélation, le ministre a dû démissionner. Est-ce que les journalistes doivent rendre des comptes? Est-ce qu'ils rendent des comptes, Élise Lucet?
Alors, les journalistes doivent rendre des comptes, absolument. Et ils doivent rendre des comptes aux gens qui sont concernés, c'est-à-dire les gens qui les regardent, les gens qui les écoutent, les gens qui les lisent. C'est à eux qu'on s'adresse en premier lieu. Donc oui, absolument, on doit rendre des comptes. Et on doit certifier nos informations une fois, deux fois, trois fois. C'est extrêmement important. La rigueur journalistique fait partie du métier. C'est vraiment un axe principal de la relation de confiance qui s'installe entre nous et les gens qui, puisque je fais de la télé, moi, nous regardent.
Par ailleurs, il y a quand même tout un arsenal législatif qui fait bien que sûr. Le journalisme ne s'exerce pas en toute impunité.
Non, on peut être poursuivi. Moi, je sais qu'il y a eu beaucoup de tentatives de procès contre Cash Investigation, par exemple. Pour l'instant, on les a tous gagnés ou les procès ont été abandonnés. Donc, bien sûr qu'on doit rendre des comptes, c'est tout à fait normal. Notre profession, elle ne peut pas se faire n'importe comment. On en est tout à fait conscient. Il y a un vrai sens de la responsabilité pour les gens qui exercent ça, à envoyer spécial à Cash Investigation. Je parle d'eux parce que je travaille avec eux, mais dans d'autres émissions aussi, bien sûr, et même dans les JT.
Est-ce que, au fond, ça revient à considérer comme Marlène Schiappa, secrétaire d'État également au gouvernement, qui, lors d'une interview donnée à Télé Loisirs, explique que lorsque vous, Élise Lucet, avec Envoyé spécial ou Cache et Investigation, lorsque vous montrez sur le service public sans cesse des images de politiciens corrompus, je la cite, d'hommes et de femmes politiques véreux qui détournent de l'argent, de gens haineux et magouilleurs, je crois, dit la secrétaire d'État, qu'on installe dans l'esprit des gens que les politiques sont tous comme ça. Elle dit que ça fait le jeu du populisme.
Oui, mais je crois qu'elle ne regarde pas les émissions, parce que si elle regardait les émissions, elle verrait qu'il y a des hommes politiques, y compris François Drugy d'ailleurs, qui est venu dans notre émission sur le glyphosate et qui n'a pas du tout été traité ni de corrompu, ni de véreux, ni de quoi que ce soit, qui était ministre en charge et qu'on a interviewé tout à fait normalement sur un sujet hautement important qui était l'arrêt du glyphosate en France. Et donc, je pense qu'elle n'a pas de temps, elle travaille trop, elle est débordée par son ministère, je peux bien le comprendre. Donc, elle a eu un avis, je pense, franchement, un peu comme ça, rapide sur les émissions sans les voir. Qu'elle n'ait pas le temps de les voir, je le comprends. Mais qu'elle regarde un peu les émissions, elle verra que non, notre but n'est pas de mettre en difficulté tous les politiques. S'ils font des choses bien, on le dit. S'il y a des dérives, on le dit. C'est notre métier, en fait, de chercher la vérité où qu'elle soit. Mm-hmm. Et même si elle dérange.
On va y revenir justement à ce sujet sur le glyphosate, parce que donc vous avez remanié la présentation d'Envoyé spécial, le rendez-vous du jeudi soir. C'est intéressant parce que les audiences sont relativement étales depuis deux saisons.
En réalité,
elle baisse quand même depuis quelques années.
On a fait la saison dernière 0,1% de plus que la saison précédente. On peut
c'est
dire
ça,
que
sur deux saisons, voilà. C'est étal, mais ça a un peu baissé quand même depuis quelques années. Vous me direz comme l'ensemble des prime time.
Oui, puis c'est difficile de faire un magazine d'information en prime time toutes les semaines. En fait, on est les seuls à le faire. Regardez, enfin non, M6 en fait aussi, mais le dimanche, mais en semaine, c'est très dur. Il y a une concurrence, mais je pense.
Vous êtes coincé entre les séries d'ailleurs.
Ouais, hein, c'est la
série TF1 et la série d'Arte.
Ouais, et puis c'est la place du service public de défendre une offre d'info, et la patronne des magazines Elsa Margoux par exemple et Yannick Letranchant, le patron de l'info, ils tiennent énormément à défendre ça et à dire ça c'est du service public.
Ça c'est du service public. On avait beaucoup entendu parler de vous en 2017 au moment où on avait médiatisé les premières coupes budgétaires à France Télévisions.
Oui.
Vous étiez clairement menacé, étiez clairement et hautement et fortement mobilisé.
Oui.
Quid depuis? Parce que
écoutez, franchement, je pense que c'était une erreur. Il y a eu un problème, une incompréhension. Je pense qu'à ce moment-là, la direction n'a pas compris à quel point le fait de nous amputer d'une partie de nos effectifs pouvait abaisser la qualité des magazines. Et à partir du moment où ils l'ont compris, le dialogue entre nous s'est complètement rétabli. Il y a une confiance totale entre Delphine Ernotte et moi. Elle nous donne carte blanche, et ça, il faut le dire, le répéter, c'est super important pour qu'on
fasse
tous les...
Ça veut dire qu'on n'a plus touché à un cheveu de vos équipes?
Non,
Ou vous avez fait des économies?
Non, on a accès accepté de perdre 3 postes, ce qui était raisonnable, puisqu'en mm-hmm. fait, tout le monde a perdu des postes. La rédac, les JT, mm-hmm. tout le monde a perdu des postes. Donc, il fallait qu'on fasse notre part, mais il fallait que notre part soit raisonnable. Ça, maintenant, c'est complètement aplani. Les discussions avec Yannick Le Tranchant, avec Delphine Ernotte sont en totale confiance. La direction des magazines, Elsa Margoux, ça se passe super bien. Donc, aucun souci. On travaille vraiment dans la sérénité.
Alors, on va parler de cette nouvelle formule de vos écritures. Un mot d'abord sur les pics d'intérêt des téléspectateurs ouais. lors de la saison dernière. Les émissions les plus regardées, en tête desquelles mmh. votre sujet précisément sur le glyphosate, une autre émission sur les inondations,
oui, une autre, les opioïdes aussi.
Les opioïdes, exactement, l'Amérique dévastée par les antidouleurs.
Super et puis, enquête de Pierre Monagier.
Voilà, que nous avions reçu à ce micro, et puis le marché clandestin des bébés sur Internet. Un mot sur le glyphosate, enquête signée Tristan Walex du 17...
Walex,
on dit Walex avec un W, diffusé le 17 janvier, plusieurs jours de polémique très virulente à la suite de la diffusion du sujet, au point que votre équipe publie un texte ouais. pour sa défense. Je trouve que c'est extrêmement intéressant que vous nous expliquiez comment vous travaillez aujourd'hui mmh. avec une réaction en temps réel pendant la diffusion sur les réseaux sociaux.
En fait, ce qui nous a un peu choqué et même vraiment étonné, c'est que 3 jours avant la diffusion de l'émission, alors que personne, enfin en tout cas les gens qui parlaient sur les réseaux sociaux ne l'avaient pas vu, ils publiaient déjà des messages en disant qu'ils allaient défoncer l'émission ou que voilà, enfin en gros c'était déjà très agressif. Donc moi je trouve très étonnant qu'il y ait une intention qui soit vraiment édicté clairement avant la diffusion d'une émission sans même avoir vu quoi que ce soit. C'est très étonnant. C'est pas une démarche a priori pour moi journalistique, c'est pas une démarche de citoyen. Donc ça nous a beaucoup étonné. Et maintenant, c'est vrai que je vais vous le dire très franchement, pour les caches investigations, on le fait déjà depuis des années pour envoyer spécial aussi, mais maintenant, on est dans l'obligation de réagir en temps réel comme vous mmh. le dites à tout ce qui peut être dit sur les émissions. Et la réaction ne peut être, à mon avis, et vraiment là, très clairement, que journalistique. C'est-à-dire que pour moi, les attaques ne peuvent être que factuelles et journalistiques, et les réponses ne peuvent être que factuelles et journalistiques. S'il y a des gens qui n'aiment pas notre émission, s'il y a des gens qui m'aiment pas moi, s'il y a des gens qui n'ont pas envie qu'on parle du glyphosate, qui n'ont pas envie qu'on parle des opioïdes, qui n'ont pas envie qu'on parle des semences...
On parle pas là des attaques ou des injures à caractère personnel, Élise Lucet. On parle là de réactions très organisées sur les réseaux sociaux oui. pour démonter les arguments oui. de votre enquête sur le glyphosate, oui. les arguments mais, de votre mais enquête c'est... sur le marché des semences.
Mais oui, mais sauf que les arguments qui ont été avancés sur les réseaux sociaux étaient faux. Donc moi, la critique, je la prends et vraiment, oui. elle est nécessaire, elle est très importante pour nous journalistes. Encore faut-il qu'elle soit étayée, qu'elle soit rigoureuse mm-hmm. et qu'elle soit journalistiquement vraie.
Moi, mais ça signifie qu'il y a aujourd'hui un service après-vente sur les réseaux
obligatoire.
Sociaux obligatoire.
Obligatoire. Et puis c'est une manière aussi de parler de l'émission. Alors il y a, et vous l'avez dit, des réseaux, des lobbies, des gens qui nous attaquent, mais il y a aussi des téléspectateurs qui ont mm-hmm. des questions. Donc c'est obligatoire de leur répondre. Une émission de télé, c'est pas une émission de télé, c'est une émission de télé. Et puisqu'elle provoque les réactions, tout ce qu'elle peut susciter comme question, et c'est notre obligation de répondre à ces questions. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mm-hmm. Et on peut être critiqué, il n'y a pas de souci là-dessus. Encore faut-il que les critiques soient rigoureuses, justes, journalistiquement parlant. Ça n'était pas le cas. On a répondu, on a fait un très long communiqué,
absolument.
Peut-être un peu trop long d'ailleurs, mm-hmm. mais il y avait tellement d'attaques, il fallait être tellement précis qu'on a fait une réponse vraiment sur notre page internet, puis ensuite qu'on a nous rebalancé sur les réseaux sociaux, ultra précise pour démontrer toutes les attaques les unes après les autres et pour montrer en quoi elles sont fausses. Il y a eu une saisine du CSA. Le CSA nous a donné raison aussi. Donc, très franchement, moi, encore une fois, s'il faut répondre à des critiques qui sont d'ordre journalistique, on répond de manière journalistique. On défend notre enquête parce qu'on est sûr de notre enquête. On a travaillé pendant des mois dessus. Après, si c'est de l'ordre d'une bataille idéologique, c'est pas mon problème. Moi, j'ai pas d'idéologie. Mmh. J'ai juste une position journalistique sur les sujets. Mes reporters aussi. Mon rédacteur en chef, Sébastien Vibert, Séverine Lebrun aussi. Même chose pour Emmanuel Gagné, Sophie Le Gall, à Cache Investigation. On n'a qu'une position journalistique, défendre la vérité.
Parlons-en de vos reporters, parce qu'on les voit beaucoup et qu'on va les voir de plus en plus.
Bah, ils sont bien, non ?
Raphaël Shapira, ouais. par exemple, a essayé de vivre un mois sans plastique. Elle a essayé de vider tout le plastique de sa maison. On en revient carrément à enlever les manches en plastique de ses couverts. C'est un cauchemar. Et le pire, c'est la salle de bain.
La salle de bain.
On attaque par le placard ?
Oui.
Ok. Là, grosso modo, on vire tout.
Gel douche. bouteilles de shampoing qui ne serviront qu'une fois. Produit en double, voire en triple. Cette pièce concentre tous les maux de la consommation de plastique. Il ne me reste que les médicaments.
Voilà, elle s'est quand même, parmi les règles qu'elle s'est fixées pour cette expérience, fixée de ne pas toucher à la chambre des enfants. Parce que j'imagine les enfants en larmes devant les caméras de France 2. Parce qu'on leur sort les pions du Monopoly. Bref, beaucoup d'illusions qui tombent. Par exemple, tous les emballages cartonnés qu'il y a dans notre frigo.
Oui.
Hein, la boîte de gazpacho qui va à la poubelle. Parce qu'en réalité, c'est un film aluminium et plastique. Donc, ça n'est pas recyclable. Et puis aussi la boulangère qui va expliquer à Raphaël Shapira qu'elle veut bien hein, vendre ses salades dans des barquettes en carton opaque, mais que les clients n'en veulent pas, ils préfèrent le plastique bien transparent. Quand on a vu ça, Élise Lucet, on s'est dit oh, encore une expérience avec un journaliste qui se filme, on n'en peut plus.
Alors moi, je suis pas
et pourtant ça marche.
Ben oui, moi,
ça marche.
Moi, je suis pas du tout d'accord avec vous parce que, en fait, je trouve aujourd'hui qu'il y a un développement du journalisme d'engagement. Et c'est toujours bien de dire, oui, alors on produit 5 millions de tonnes de plastique par an en France, on en jette 3 millions et demi de tonnes par an, il y en a 2 millions et demi qui sont à usage unique et puis on en recycle que 25%. Je vous dis ça, vous avez envie de regarder l'émission? Non. Si je vous dis, Raphaël Shapira, notre reporter, a essayé de vivre un mois sans plastique, elle s'est mise un peu à votre place en tentant une expérience un peu radicale. Et puis, bah, il y a des difficultés, c'est pas évident. Elle en bave, c'est difficile. Et elle propose des solutions, surtout. C'est ça qui est intéressant, c'est que dans le reportage, elle propose des solutions de remplacement. Mais c'est tout autre chose, parce que tout à coup, on se met à sa place. On rit beaucoup, parce que c'est, franchement, c'est drôle. On apprend plein de trucs.
On apprend plein de trucs.
Et,
non, c'est vrai.
Et donc, au final, ça fonctionne.
On continue
l'engagement d'un journaliste, ça
marche. Discuter, justement, de ses écritures, parce que c'est un sujet extrêmement intéressant. S'ensuit un sujet sur la Malaisie, poubelle des plastiques du monde entier, où on retrouve des déchets plastiques venus de France ou d'Australie. L'enquête, elle est signée Virginie Villard et Mathieu Rejou. Rejou raconté à la première personne du pluriel, cette fois-ci, puisqu'ils sont deux.
Ben oui.
Nous avons décidé d'aller enquêter dans ce pays, devenu la décharge de l'Occident. Avec Eng et Anna, notre guide, nous fouillons dans ce tas de déchets. Nous tentons d'en savoir plus en approchant l'une de ces usines. Nous lui demandons de nous expliquer comment il transformait le plastique. Nous retrouvons le docteur Tneo. Ce jour-là, il reçoit un petit garçon de 5 ans qui ne va pas bien.
Nous,
vous avez fait un montage.
Oui, bah oui, mais quand même parce qu'on l'a un peu, on le subit au bout d'un moment.
Non, bien
nous,
sûr.
Nous, journalistes en train de travailler. Nous, journalistes en train de vous montrer comment on travaille.
Mais je pense pas que ce soit ça. C'est vraiment le partage de l'aventure journalistique en fait.
Ce qui est quand même devenu une tarte à la crème aujourd'hui.
Mais
tout
non,
le monde fait
c'est
ça,
pas
y en a
une
plein
tarte à la crème. Il y a un
plein JT.
Je suis pas d'accord avec vous.
Bon,
il y a un besoin de transparence sur la manière dont on fait notre métier. Ils nous l'ont dit, les gilets jaunes. Non, oui, non, on les a entendus. Oui, on les entend. Le partage de l'aventure journalistique, c'est on vous cache rien, on vous montre tout ce qu'on fait et pourquoi on a décidé de le faire. Et c'est très important parce que cette transparence journalistique, elle permet aux téléspectateurs de vivre cette enquête journalistique comme l'a vécu le journaliste, de partager avec lui. C'est une aventure, le journalisme. C'est une vraie aventure. Virginie, elle le montre dans son sujet avec Mathieu Drejou. Il le montre et on partage tout avec le téléspectateur, on cache pas les choses.
Alors comment vous les choisissez, ces écritures? Est-ce que l'écriture, elle naît, parce que tout ça c'est une grammaire hein, télévisuelle,
bien sûr.
Elle naît du sujet ou elle naît d'abord de la volonté de prendre le téléspectateur par la main? Est-ce qu'on tord les sujets pour aller chercher le téléspectateur?
Non, moi je pense qu'on
pour
peut...
le faire rire, pour que ce soit ludique,
moi,
pour que ça soit transparent et convaincant.
Il faut être souple.
Oui.
Il faut être souple, parfois le sujet prend le pas sur l'écriture, parfois c'est l'écriture qui prend le pas sur le sujet, parfois c'est 50-50. En journalisme, il n'y a pas de règles. Enfin, si vous voulez à un moment fixer des règles en disant les sujets, ce sera comme ci, comme ci, comme ci, comme ça, vous avez tout faux. Mais tout faux.
Avec
après,
plus de sujets incarnés après, pour envoyer spécial
oui,
à partir de
oui, parce que quand on est en prime, face, comme vous l'avez dit, à des énormes séries qui sont en face de vous, face à des programmes sur d'autres chaînes privées qui sont des programmes ludiques, de jeux, de choses comme ça, il faut inventer des écritures qui vont embarquer le téléspectateur et qui vont l'emmener avec vous. C'est ça notre seule envie en fait, c'est de partager avec eux toute cette passion qu'on a de faire Envoyé spécial, de faire des enquêtes ou de faire de Il sauve le monde ou des choses de ce style.
Et ben voilà, Envoyé spécial, nouvelle formule France 2. Merci Élise Lucet
sur France 2.
Soir. Bonjour Ali Réveillé.
Bonjour Sonnette de Villers.
Alors la vie à crédit.
Et ben ouais, on s'intéresse aux pièges et choses frappes de la vie à crédit en partenariat avec Tout compte fait sur France 2, voilà.
Et ben voilà.
Et puis appelez le standard 01 45 24 7000.